France Culture.
Question d'islam par Al-Benchi. Aujourd'hui, nous parlons des 60 ans, de la célébration des 60 ans de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, qui établit le dialogue avec les religions non chrétiennes. C'est un événement majeur qui a eu lieu tout au long de l'année 2025 et qui reprend ce qui a pu se passer justement en 1925 dès sa promulgation le 28 octobre. Et pour évoquer ce sujet, en parler davantage, j'ai grand plaisir à recevoir le professeur Michel Younes. Michel Younes, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous faire l'amitié de nous donner de votre temps et de nous parler via l'application Lipoltit. Nous rendons hommage à la technologie. Vous êtes à Lyon parce que vous êtes le doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes professeur en théologie et en islamologie. Et vous êtes aussi le coordinateur général de la plateforme plurielle et vous êtes auteur de nombreux ouvrages, comme vous avez coordonné aussi leur parution avec d'autres contributeurs. Il est vrai que, sans m'apesantir sur ce que disent les puristes de la langue française, on célèbre ce qui a pu réjouir et on commémore ce qui aurait pu attrister. Là, c'est vraiment une célébration des 60 ans de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, et ça a été fait aussi bien en France que de par le monde.
En effet, c'est un moment de célébration, et je pense que vous avez bien choisi le terme parce que ça a permis de marquer un temps pour l'Église catholique réunie en concile, et je rappelle pour les auditeurs l'importance non seulement symbolique, mais au niveau de l'autorité conciliaire, de ce que ça engage pour l'ensemble des catholiques dans le monde. Et pour la première fois, au dire de plusieurs analystes, ça constitue un tournant au niveau de la manière de s'inscrire dans le monde, la manière d'aborder les relations avec les religions non chrétiennes. Et c'est vrai que depuis 60 ans, il y a un geste fort. Donc j'appuie sur l'idée, l'importance pour l'Église catholique de pouvoir célébrer. Et ça a été fait un peu partout, que ce soit à Rome ou dans plusieurs pays et régions où on a marqué ces 60 ans de Nostra Aetate.
Oui, Nostra Aetate, je le dis simplement pour nos amis auditeurs. Ce sont les premiers mots, comme il est d'usage, de cette phrase qui préfigure ou qui consolide, ou en tout cas qui marque le rapetissement du monde et l'unité du genre humain. Donc, à notre époque où le genre humain devient de jour en jour plus étroitement uni. Ce sont les premiers mots et la toute première phrase de la déclaration.
En effet, c'est l'habitude dans des titres, des textes conciliaires, de prendre les deux premiers mots d'un texte et ça permet de le marquer. Et ce texte-là, on peut sans doute entrer dans sa constitution. C'est un bref texte, hein. C'est un texte relativement court, de 5 paragraphes, mais qui est d'une grande importance, d'une grande valeur, que ce soit au moment de son élaboration ou par rapport à ce qui a donné comme fruit.
D'une manière factuelle uniquement, et puis nous passons plutôt au contenu, la déclaration conciliaire a été adoptée et approuvée par 2221 voix contre 88, ce qui donne son importance. Et je crois qu'il y a eu très peu d'abstentions, 2 au moins.
C'est un texte qui a eu un accueil favorable. Bon, il faut peut-être dire qu'il y a une histoire dans l'histoire. C'est qu'au début, le texte devait prendre une tournure. Enfin, quand le pape avait confié au cardinal Bea son écriture, puis son insertion dans un document conciliaire. Et il y a eu des va-et-vient, mais c'est l'habitude hein, dans les textes conciliaires. C'est un projet sur du moyen terme, si l'on peut dire, et qui s'affine avec le temps et que les évêques amendent. Et il faut rappeler peut-être pour ce concile Vatican II, 1962-1965, la place et l'importance pour ce texte des évêques orientaux qui ont insisté pour qu'il y ait une parole d'ouverture, on y reviendra sans doute, mais concernant le paragraphe 3 qui parle des musulmans, compte tenu de leur contexte, mais aussi compte tenu de toute cette dynamique engagée par le Concile Vatican II lui-même. Je rappelle juste que ce n'est pas dans ce seul document où on parle des religions non chrétiennes, dans la constitution, cette fois-ci, qui s'intitule Lumen Gentium. Lumen Gentium, c'est la première constitution qui parle de l'Église. Et dans cette constitution, si on prend le paragraphe 16, on évoque déjà la place des religions en lien avec l'Église. Alors, la particularité des deux textes, c'est que dans Nostra Aetate, cette déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, on va insister sur les relations, et dans ces relations, on va dire à quel titre, donc au nom de quoi, et surtout quel contenu on va donner à ce qui deviendra le terme phare à la suite du texte conciliaire, le terme du dialogue qui renvoie à la rencontre, aux échanges, et c'est tout le texte de la déclaration va être imprégné par cet esprit-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, à part les quelques résistances, les quelques petites résistances, si je puis dire, hein, mais qu'on pourrait localiser, le texte, il a marqué une grande ouverture d'esprit.
Oui, vous avez tout à fait raison de parler de l'histoire dans l'histoire, parce qu'en réalité, au départ en tout cas, ça a commencé avec plutôt le fait d'asseoir la relation avec les Juifs et le judaïsme. Le cardinal Augustin Béa, presque octogénaire, s'est vu confier par le pape Jean XXIII ce travail à la fois de rédaction. Il y a eu le colloque ou la rencontre de Silisberg avec ses 10 points, et puis surtout la rencontre entre l'historien Jules Isaac et le pape Jean XXIII le 19 juin 1960 pour évoquer davantage de compréhension et de dialogue entre l'Église catholique et le judaïsme. Et par la suite sera étendu à l'islam, si on reste dans la famille monothéiste, et puis aux religions non chrétiennes.
En effet, ça c'est la préhistoire, si je puis dire, à l'intérieur, avant même le concile, tout ce que vous avez rappelé comme étape, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sortait à ce moment-là de la Seconde Guerre mondiale, le drame hein, donc, qui a été assez marquant, et y compris ce qu'on a reproché parfois à l'Église, ce silence pendant la Shoah, les rencontres que vous avez évoquées. Et c'est vrai que la première commande, c'était d'écrire un texte sur les Juifs et le judaïsme. Et c'est là où on peut raccrocher les wagons avec ce que j'ai dit quand on a proposé ce premier texte. Notamment les évêques orientaux ont dit « mais il y a aussi d'autres réalités religieuses » et ils ont insisté sur la question de l'islam et des musulmans. Et par la suite, on a décidé d'en faire un texte par rapport aux relations avec les religions non chrétiennes en élargissant. Et là, on comprend pourquoi dans la structure du texte, le paragraphe 4, c'est le paragraphe le plus développé en termes de taille, hein, j'entends, oui. Et le plus élaboré, y compris théologiquement parlant, ce paragraphe, il laisse voir à quel point il y a une élaboration importante qui n'enlève en rien à d'autres paragraphes, mais qui explique pourquoi il est beaucoup plus long que les autres paragraphes. Après, ça a été donné dans le cadre de ces relations avec le préambule et la conclusion, mais c'est dire aussi comment au cours du concile il y a eu cette prise de conscience de l'ouverture, de l'élargissement. On peut pas uniquement parler des relations entre l'Église et le judaïsme, uniquement du judaïsme. Et je pense qu'il y a aussi un deuxième moment clé, c'est l'encyclique Ecclesiam Suam, notre Église. C'était en 1964, et dans laquelle c'est le pape Paul VI qui s'est lui-même engagé sur la notion du dialogue. Et cette conversation que l'Église se fait avec le monde, en rattachant cette ouverture, non pas une forme d'ouverture d'esprit, la gentillesse, mais dans une forme de relecture de soi. Qui sommes-nous ? Qui est l'Église aujourd'hui ? Et d'où tient-elle cette exigence du dialogue, de cette exigence de la conversation avec le monde ? Et le pape Paul VI va dire, elle la tient du Dieu qu'elle considère parlant. Il est parole en lui-même, ce Dieu chrétien qu'on désigne par trinitaire, qui a la parole en lui-même. Quand il s'est révélé au monde, il s'est révélé parole, et l'Église n'a qu'une seule mission, c'est de prolonger la conversation que Dieu a entretenue avec le monde. Et j'insiste sur ce point pour montrer à quel point cette ouverture, elle peut se faire dans un contexte historique donné, mais elle se fait aussi dans la relecture, si je puis dire, d'une identité et qui s'imprègne d'une relecture, je dirais, d'une tradition, de l'écriture. C'est une manière de revisiter à partir de soi l'ouverture à autrui. Ce n'est pas un acte extérieur, ce n'est pas une volonté uniquement quand on finit de se regarder, on voit qui est l'autre, et puis on se dit quelle relation à autrui. C'est en se regardant, en regardant quelle est son identité et la place dans le monde, et quelque part, ça dit qu'on ne peut pas faire autrement que de prendre le monde tel qu'il est et de continuer cette conversation avec le monde. Et c'est ce qui définit la mission de l'Église.
Oui, alors avant de parler du paragraphe concernant la tradition religieuse islamique, peut-être encore un mot du paragraphe 4 qui est consistant. Moi, j'ai retenu cette phrase. L'Église croit en effet que le Christ, notre Père, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix et en lui-même, des deux a fait un seul. Et l'exégèse de ce passage-là aux Éphésiens a son importance.
Je dirais qu'il a une double importance, ce paragraphe aux Éphésiens. La première, je vais prolonger, aller dans le même sens de ce que vous signalez, c'est comment, au fond, il n'y a pas un choix à faire, une opposition à faire. L'Église, elle œuvre pour l'unité. C'est sa mission. Elle ne peut travailler que pour apaiser et œuvrer pour l'unité. Et cette unité-là, d'ailleurs, on trouve des références et des manières de concevoir dans d'autres textes du Concile. Si je prends Lumen Gentium, il est dit clairement, quand on dit qui est l'Église, l'Église, elle travaille pour l'unité du genre humain et l'unité avec Dieu. Enfin, vraiment pour l'unité. Et ce marqueur d'unité fait qu'on œuvre sans arrêt pour la réconciliation des peuples. La réconciliation, d'ailleurs, c'est ce qui revient dans le texte. Mais je voudrais attirer l'attention sur un deuxième point pour marquer son importance. Et ce n'est pas par hasard que cette affirmation que vous avez soulevée, l'Église croit en effet que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix en lui-même, et en lui-même, pardon, des deux a fait un seul, qui vient tout de suite après une autre affirmation qui peut paraître étrange. En parlant du rapport entre l'Église et le peuple de l'Alliance. Je vous lis la phrase et puis après, je vous signale ce qui est vraiment paradoxal et très intéressant. Il dit « C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'Antique Alliance et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage. »
Que sont les gentils.
Et ça, elle le tire de Paul. Hein. C'est Paul dans l'Épître aux Romains qui parle de cette image-là. Mais c'est une image assez forte et paradoxale parce que d'habitude, on ne fait pas ça. D'habitude, quand il y a un arbre qui ne donne pas de fruits, on lui greffe d'un arbre qui donne des fruits. Sinon, ça ne marche pas. Mais si on était resté à ce qu'on trouve dans la nature habituellement, on allait renforcer l'idée ou une certaine conception qu'on a appelée la substitution, une certaine théologie de la substitution ou du remplacement. C'est comme si on prend quelque chose de l'extérieur parce que l'olivier, la racine, elle est asséchée et on va lui greffer quelque chose qui lui est étranger mais qui va la vitaliser de l'extérieur. Et c'est justement avec ça qu'on veut rompre. C'est-à-dire quand on veut faire une unité, on ne considère pas que les racines sont asséchées. Au contraire, on continue à nourrir pour irriguer. Et ce renversement de l'idée donne à voir une unité, non pas par un remplacement, mais une unité par un rayonnement, une imprégnation, une ouverture, une unité qui se fait par la paix et non pas par la concurrence.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Michel Younes, doyen de la faculté de théologie catholique de Lyon, professeur en théologie et en islamologie et surtout coordinateur général de la plateforme plurielle et auteur de nombreux ouvrages. Nous parlons des 60 ans de la déclaration conciliaire Nostra Aetate. Et cette fois-ci, parlons, si vous voulez bien, Michel Younes, du regard maintenant, avec estime, dit-elle, en tout cas lit-on dans le texte, je ne lis qu'un passage parce qu'il est assez conséquent aussi, enfin, il y a la brièveté, la concision du texte, mais aussi sa portée générale. Donc l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Et un peu plus loin, bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète, ils honorent sa mère virginale, Marie, et parfois même l'invoquent avec piété. De plus, ils attendent le jour du jugement, où Dieu rétribuera tous les hommes après les avoir ressuscités, aussi, ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne. Donc voilà, et après il y a aussi ce passage tout aussi important qui est de ne pas peut-être oublier le passé, mais de le dépasser en quelque sorte, et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle.
Alors, c'est un passage qui est certes, comme vous l'avez dit, consistant, bref, mais il est très important dans la manière de discerner par la suite les relations entre ce que veut l'Église et les musulmans. Je voudrais soulever plusieurs points. Le premier point, il est vrai que le texte, dans sa formulation, comme vous venez de le lire, met l'accent d'abord sur, au fond, ce qui rapproche. Ce qui rapproche, sans forcément dire que tout est pareil. Et à la fois, il y a des éléments qui, quand on regarde les musulmans qui adorent le Dieu unique, qui disent qu'il est miséricordieux, qui disent qu'il est créateur, et ainsi de suite, bon, force est de constater que c'est avec nous, dit le texte. Et force est de constater qu'on ne peut faire qu'avec estime, parce que ça rejoint profondément ce que le texte de Lumen Gentium dit, ils adorent avec nous. Avec nous, c'est que, bon, s'ils disent que Dieu est un, et si les chrétiens disent que Dieu est un, bon, on reconnaît qu'il n'y a pas un Dieu par religion, ben, on le reconnaît tous ensemble. Mais ça ne veut pas dire que tout est pareil. D'ailleurs, la petite phrase, la petite insertion qui est dite, bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, il ne faut pas gommer les différences complètement, parce que sinon, bon, si on est tous pareils. Mais on regarde aussi ce qu'ils font. En fait, c'est à chaque fois de dire, ben, on peut dire, ben, c'est différent, c'est pas pareil, mais on peut aussi dire qu'il y a des horizons qui convergent. Pareil pour l'aumône ou pour le jeûne. On ne dit pas que c'est le même jeûne, on ne dit pas que c'est la même prière. On dit qu'ils ont véritablement en estime la vie morale. Alors, pour éclairer ce premier point, je voudrais quand même attirer l'attention sur une phrase clé qu'on retrouve dans le paragraphe 2, même s'il parle de l'hindouisme et du bouddhisme, et dans ma lecture à moi, le paragraphe 3, c'est une sorte de mise en application de cette phrase, parce que cette phrase ne concerne pas que le paragraphe 2. Que dit-elle ? Elle dit « L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. » Elle ne rejette rien. Mais elle considère avec un respect sincère ses manières d'agir et de vivre, ses règles et ses doctrines, quoi qu'elle diffère de ce qu'elle-même propose. Mais elle apporte un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Si on garde à l'esprit cette affirmation, on voit que le paragraphe 3 qui parle des musulmans est une sorte de mise en application. L'Église catholique ne rejette rien de ce que les musulmans affirment et qui rejoint ce qu'elle-même dit et ce qui relève du vrai et du saint. Vous voyez, c'est ça qui est derrière.
Et dans le passage que vous avez évoqué, il y a, et c'est tout à fait naturel, qu'elle annonce, elle étant l'Église, et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, dans lequel les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse et dans lequel Dieu sait réconcilier toutes choses.
Exactement, c'est que la reconnaissance d'un rayon de vérité chez l'autre, la reconnaissance de ce qui est vrai chez l'autre, parce que ce n'est pas parce que l'autre le dit et qu'il est faux, même s'il dit exactement ce que je dis. Si l'Église dit que Dieu est un, je reprends cette phrase, et le musulman dit que Dieu est un, elle reconnaît ce qui est vrai. Maintenant, ça n'empêche pas de dire que le rayon de vérité, ce n'est pas le soleil, si je puis dire. Et elle est tenue d'annoncer le Christ en lequel on trouve la plénitude de vie. Donc c'est une forme de plénitude, mais qui n'empêche pas de voir qu'il y a des rayons, qu'il y a des réalités qui sont illuminées par la source divine. Donc il n'y a pas de contradiction, si je peux dire, entre l'un et l'autre, dans la composition du paragraphe, j'entends.
Michel,
ça, c'était la première remarque. Pardon, je ne sais pas si je peux.
Non, je vous en prie. Vous avez large latitude à développer votre idée.
Je voudrais mentionner un deuxième point qu'on retrouve dans cette invitation à la compréhension mutuelle à protéger, promouvoir ensemble des valeurs communes, la paix, la liberté, les valeurs morales, la justice sociale. Alors, un point qui a fait débat, c'est elle exhorte à oublier le passé. Et certains, j'entends certains dire, mais oublier, ça conduit à un refoulement, c'est... Mais ce n'est pas dans le sens oublier le passé, c'est qu'on efface uniquement ce qui s'est passé. Il n'y a pas une forme de naïveté par rapport au passé, mais il ne faut pas que le passé nous bloque. Et ce que j'observe parfois, même dans les relations entre chrétiens et musulmans, c'est que sans arrêt, on fait référence à un passé, il y a un rapport au passé qui peut être bloquant parce que les mémoires ne sont pas travaillées, assainies. Et ça devient, on a fait ça, ils ont fait ça, et donc du coup, comme si ils peuvent pas faire autrement. Alors que là, il les exhorte à oublier le passé, dans le sens, il les exhorte à suspendre ce passé et à faire en sorte qu'on le transforme, qu'on transforme notre avenir à travers l'actualité. Et je voudrais mentionner ce que le texte dit et ce qu'il ne dit pas. Parce que ça peut nous ouvrir aussi un pan de réflexion sur son actualité. Mais c'est vrai que le texte fait le choix. Alors, je ne sais pas si c'est un choix conscient ou inconscient, si c'est une intuition, si c'est quelque chose qui peut aider à éclairer d'autres aspects. Mais sans doute, l'auditeur ou les auditeurs qui nous écoutent ont remarqué à votre lecture qu'il ne parle pas de l'islam. Mais le texte parle des musulmans. Il regarde avec estime les musulmans. C'est-à-dire qu'il demande d'abord d'approcher les musulmans, non pas comme s'ils étaient pris par un système uniquement de pensée, si je puis dire, mais à partir de ce qu'ils portent en eux. Donc on aborde les musulmans qui, eux, adorent le Dieu unique. Cette porte d'entrée par, je dirais, l'anthropologique, par l'humain, met la relation au centre. Et ça, c'est un point capital, parce qu'on voit bien, quand on parle du dialogue interreligieux ou bien du dialogue islamo-chrétien, à quel point, d'abord, le système ne dialogue pas, quel qu'il soit. Ce n'est pas les religions qui dialoguent, c'est les personnes qui sont inscrites dans un cadre religieux, porteurs de foi, qui peuvent dialoguer. Mais ça change complètement la perspective. Parce que si je suis comme porte-parole d'un système, on voit à quel point le dialogue tourne court. Mais si, d'abord, comme porteur de foi, je dialogue, on voit à quel point c'est la manière de vivre, c'est la manière de célébrer, c'est la manière de jeûner, de faire l'aumône, qui va être le lieu de la rencontre. Donc, pour dialoguer, il faut d'abord rencontrer la personne qui porte une foi. Il ne s'agit pas de déraciner une personne pour dialoguer avec elle, mais il ne s'agit pas non plus de la transformer en un haut-parleur de sa tradition. Et ça, c'est parfois le piège, que la personne elle-même, ou que dans mon regard, je la vois comme représentant l'islam, si je suis chrétien, ou comme représentant le christianisme, si je suis musulman, ou encore que moi-même, je me dis « Ah, je ne peux pas dire ça, parce que l'islam dit, le christianisme dit. » En fait, l'islam ne dit pas, le christianisme ne parle pas. Ce sont des personnes qui peuvent se ressourcer ou bien reprendre des éléments qu'ils trouvent dans une tradition religieuse. Je ne sais pas si mon idée est claire, mais en tout cas, j'essaie d'interpréter ce qu'il y a derrière cette porte d'entrée à travers l'estime des musulmans. Maintenant, il ne parle pas de l'islam, et c'est vrai que aussi il y a d'autres absents dans le paragraphe. Il ne parle pas du Coran. Il ne parle pas du prophète de l'islam, exactement, oui, oui. Exactement. Il ne parle pas de tous ces éléments-là. Alors, c'est sans doute lié à cette volonté d'abord de regarder ce qui fait sens pour un chrétien dans le sens de vrai et saint, ce qu'on trouve de vrai et saint. N'entrons pas par la porte qui peut conduire à des difficultés ou des polémiques. Et c'est ce qui peut être aujourd'hui, alors à l'époque du Concile, il y a 60 ans, c'était une volonté de retrouver ces points d'accroche, parce qu'il exhorte d'entrer dans le dialogue avec prudence et charité. C'est le paragraphe d'avant. Le dialogue conduit aussi à des collaborations avec les adeptes d'autres religions.
Nous verrons comment les grandes lignes de la réception de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, à la fois en son temps et maintenant, et vous-même, Michel Younès, avez, dans un texte que j'ai pu lire, mis en avant au moins 5 points qui sont, et ça vous l'avez déjà évoqué, la foi en un Dieu unique, clément, miséricordieux, avec une tendresse infinie et auquel se réfèrent volontiers aussi bien les chrétiens que les musulmans et les juifs si on reste dans la famille monothéiste. Vous avez évoqué à l'instant la pluralité des musulmans, donc on parle des hommes et des femmes, de l'humain et non pas du système religieux comme tel, du dialogue des œuvres et des points de rapprochement, se centrer effectivement sur des valeurs partagées. Et moi, j'ai envie de vous poser, avec le temps et 6 décennies plus tard, qu'avec la maturité qui peut-être a pu caractériser les uns et les autres, et surtout le fait de faire crédit qu'il y a bonne volonté, et nous verrons quand il y a eu quelques difficultés comment cela a pu être surmonté, qu'il y a encore des choses sur lesquelles il faut insister. Et moi, j'ai envie de vous poser d'emblée la question sur la liberté de conscience qui n'est peut-être pas encore assez assumée ou assez bien assise dans le contexte théologique islamique.
Vous pointez un élément, à mes yeux, fondamental qui peut être approprié par les traditions religieuses si on veut véritablement que le dialogue ou la relation serve à grandir déjà en humanité. Pourquoi c'est un point fondamental? Parce que, à ma connaissance, jusque-là, ça reste un point aveugle dans l'enseignement religieux musulman, enfin je choisis chaque mot qui veut s'appuyer sur la tradition, et tant qu'on est à ce niveau-là, je peux comprendre ce point aveugle. Je vais vous dire pourquoi je le comprends, mais pourquoi aussi il faut dépasser les lieux de blocage. Pourquoi je le comprends? Parce que d'abord, si je regarde la trajectoire de l'Église catholique, je vois aussi que c'est avec le Concile Vatican II que dans un texte qui parle de la dignité humaine qu'on va reconnaître l'importance de la liberté de conscience. Donc ça veut dire que ça fait un chemin. Alors comment elle l'a fait? Elle l'a fait en travaillant sur ses sources, en réinterprétant un certain nombre d'aspects. Donc ça a nécessité un travail sur soi qui n'a pas plu à tout le monde, parce qu'on a dit « Oh, on ne va pas encourager les gens, à dire qu'on soit ici ou ailleurs, c'est pareil, c'est du relativisme. » Vous savez, on a une peur bleue du relativisme, dire que tout est pareil. Mais ça a libéré la parole et ça a libéré le regard sur l'humain. Parce qu'au fond, l'humain est fondamentalement libre. Et quelque part, si pour les traditions monothéistes qui croient que il y a un Dieu créateur, on voit que ce Dieu créateur, parce qu'il est fondamentalement libre, il ne peut que créer des humains fondamentalement libres. Parce que sinon, il y a quelque chose qui est en contradiction dans les traditions religieuses, y compris quand il s'agit d'aller jusqu'à reconnaître leur faculté à poser des actes pour lesquels ils sont responsables. Donc, si on refait un peu ce parcours-là. Mais elle a franchi le pas. Donc, l'Église catholique a franchi le pas dans ce sens-là. Et c'est vrai que, de l'autre côté, si je reviens à la tradition musulmane et dans ce texte-là auquel vous faites allusion, que j'ai écrit pour les 60 ans après Nostra Aetate, sur l'importance d'échanger sur ce point aveugle, je pense que ce qu'on peut tirer de l'enseignement du concile et de l'expérience du dialogue, c'est que si on veut être les fils et les filles de notre temps, on vit dans un monde où anthropologiquement, moralement, éthiquement, Et je dirais, on ne peut pas ne pas reconnaître la liberté de conscience. Anthropologiquement, moralement et éthiquement. Nier la liberté de conscience, c'est nier la possibilité donnée à l'être humain d'être fondamentalement libre de choisir de faire un acte cultuel, même au Dieu créateur. Et tant qu'on persiste dans cette négation-là, on peut toujours dire qu'il y a le tissu sociétal, l'unité qui est affichée, mais il y a une négation profonde. Et quelque part, c'est là où je me dis, la relecture même des traditions religieuses, et dans mon texte, je pointe aussi l'importance de le pas en avant que les recherches sur la manière de lire les textes. Au fond, c'est ça que ça engage. Ça engage les hommes de religion, si je peux dire, ou bien les hommes et les femmes croyants, de relire les textes de référence avec les outils de notre temps et pour notre temps. Et si on arrive à le faire, je pense que le dialogue lui-même pourra faire un pas en avant, parce qu'il ne mettra plus en contradiction ni les personnes avec leur contexte, ni une forme de concurrence, une volonté de garder les siens et de véritablement voir la dimension spirituelle fondamentale d'une religion par-delà, et en lien certes, mais par-delà uniquement le fait sociétal et politique.
Oui, alors vous avez tout à fait raison et vous avez eu ce long développement à propos de ce point aveugle, ce que les ophtalmologistes appellent un scotome, une véritable lésion du nerf optique et puis on ne voit plus rien. C'est que la théologie islamique actuelle, si elle se veut en adéquation avec les exigences de son temps et même par le passé, c'est que anthropologiquement, philosophiquement, politiquement et à tout point de vue, on ne peut pas continuer à croire que éventuellement on pourrait contraindre les corps, mais jamais, jamais pouvoir interférer dans ce qui se passe dans les cœurs. Et donc le pire des méfaits est un crime de lèse-conscience. Comment peut-on s'imaginer un instant pouvoir, par la coercition, par la menace, par la terreur, par la violence, ou même par un simple regard inquisiteur, contraindre à ce qui est une adhésion dans l'intimité de la conscience.
Mmh. Exactement.
Et de ce point de vue-là, soit il faut l'équivalent, mais on ne l'a pas, de ce qui a pu se passer au moment de Vatican II, soit que des hiérarques musulmans, dans leurs obédiences et en toute responsabilité et en toute liberté, de proclamer effectivement cette liberté de conscience, qui n'est pas négociable et il faut le faire sans barguigner, sans transiger, sans aucun atermoiement.
Exactement. Et j'irai, si vous permettez, à l'ébécher.
Je vous en prie.
Encore plus loin dans la relecture de notre contexte actuel. Et je dirais que 60 ans après Nostra Aetate et tout le bénéfice qu'on peut tirer par rapport à ces points qu'on évoque entre nous, il y a aussi l'expérience. Et on peut aussi dire l'expérience des musulmans aujourd'hui dans des contextes sociétaux qui permettent qui sanctuarise la liberté de conscience a été bénéfique pour les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire, concrètement, si on est honnête avec notre relecture, que serait la vie des hiérarques musulmans, comme vous les nommez, ou bien des musulmans eux-mêmes, si depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, les musulmans se retrouvaient dans des sociétés qui allaient les contraindre à adopter une autre religion que la leur, qui ne permet pas la liberté de conscience, qui contraint physiquement, comme vous dites. Ben, ça serait un scandale. Ça serait un scandale à leurs yeux. Et donc, du coup, le bénéfice tiré de cette expérience de vivre dans une société qui permet la liberté de conscience, qui la sanctuarise, et dans un contexte même religieux qui la sanctuarise, d'abord qui voit le bénéfice pour les musulmans et qui voit que c'est pas parce qu'il y a la liberté de conscience qu'il y a eu une défection massive où tout le monde a quitté l'islam. Enfin, c'est cette peur, parce que encore une fois, je vous ai dit, travaillons sur les peurs et travaillons sur les bénéfices. C'est bénéfique parce que ça permet de revisiter sa tradition religieuse dans un sens qui valorise l'humain profondément dans ce qu'il est. C'est bénéfique parce que ça permet d'inscrire l'humain dans le contexte actuel qui, moralement, éthiquement, ne peut pas ne pas accepter la liberté de conscience. Mais d'un autre côté, travaillons sur les peurs. De quoi a-t-on peur quand on reconnaît la liberté de conscience ? Or, ces peurs s'avèrent infondées. Néanmoins, si on continue à s'arc-bouter contre la liberté de conscience, au contraire, dans un monde de plus en plus ouvert, où les réseaux sociaux pénètrent un peu partout et tout ce qu'on sait, au contraire, c'est là où il y a le plus grand danger. C'est qu'on va plus véritablement se préparer à cette ouverture qui finalement contraint tout le monde à prendre conscience que, et là je vous rejoins, est-ce que l'intériorité ne peut pas être contrainte par des règles, même sociétales, même s'il y a des freins, des menaces à tous les niveaux, mais au fond, intérieurement, ça ne peut pas avoir d'effet. Autant remettre en au devant de la scène, pour les hiérarques musulmans, tous ces points-là, et puis que les théologiens, parce qu'on parle de théologie contemporaine, actuelle, que les intellectuels théologiens musulmans puissent faire cet acte même de pionnier. Et alors, si ça n'a pas été fait, ou bien c'est pour d'autres raisons juridiques, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui contraint ou ce qui a contraint les pensées musulmanes classiques à garder ce point aveugle, c'est la lecture juridique dans un contexte donné des textes de référence. Quand juridiquement on a considéré que désormais celui qui apostasie a telle ou telle conséquence, enfin on a pensé et on a tout enveloppé dans un contexte juridique. Et peut-être le drame, c'est d'en rester au seul référentiel juridique. Et s'en sortir, justement, c'est retrouver la porte du réflexif, la porte du théologique. La théologique au sens actuel du terme. Le théologique n'est pas uniquement la volonté de justifier tel ou tel point. Ce n'est pas des haut-parleurs d'une tradition qui est répétée mécaniquement. Mais moi, je définis toujours la théologie comme étant une intelligence de la foi. Et une foi qui fait appel à l'intelligence dans un contexte donné, qui rend compte de la foi dans un contexte donné et qui écoute les questions que lui renvoie la société dans laquelle elle se trouve.
La fameuse intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, du Père Chenu, et aussi Fides Quarens Intellectum de Saint Anselme. Donc une foi toujours en quête d'intelligence. sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Michel Younes, doyen de la faculté de théologie à l'Université catholique de Lyon et professeur en théologie et en islamologie, coordinateur aussi, coordinateur général de la plateforme plurielle et auteur de nombreux ouvrages théologiques. Nous parlons des 60 ans de la déclaration Nostra Aetate, ses répercussions, son impact, notamment de nos jours, et les célébrations qui l'ont ponctué tout au long de l'année écoulée, l'année 2025. Et Michel Younes, il y a eu très tôt, c'est quasiment 2 ans après la promulgation, le 25 juillet 1967, même un peu moins de 2 ans, le voyage du pape Paul VI en Turquie. On aura plus tard un autre voyage en novembre 1979, le voyage du pape Jean-Paul II au stade de Casablanca le 19 août 1985. Il va y avoir, et en dépit de ce que d'aucuns avaient considéré comme une sorte de rechute avec le cours, la leçon, le discours, la conférence de Ratisbonne le 12 septembre 2006 par le pape Benoît XVI, mais il va en Turquie au mois de novembre 2006 toujours, et cela donnera au forum islamo-catholique la possibilité de rencontres et de dialogues, et surtout avec les deux papes suivants, le pape François et tout ce qu'il a fait, surtout la signature avec le recteur de la grande mosquée Al-Azhar, Ahmed Tayeb, le 4 février 2019, ce mémorandum,
une déclaration
de la fraternité humaine, le déplacement en Irak pour voir l'ayatollah Sistani, donc une autorité chiite, en mars 2021, et en septembre 2024, lorsqu'il y a eu le déplacement à Jakarta pour l'inauguration de cette grande mosquée, l'Indépendance, Istiqlal, conçue par un architecte chrétien, qui montre toutes ces rencontres au sommet de l'Église catholique avec certains hiérarques ou responsables ou dignitaires religieux musulmans.
Alors, en vous écoutant énumérer l'ensemble, j'ai envie de pointer ce que ça évoque. Et c'est vrai qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des gestes symboliques très forts qui ont été posés, des rencontres qui ont été matérialisées et des contenus qui parfois ont été mal compris ou des prises de parole mal comprises. Je refais le fil à ma manière. Il est vrai que tout de suite après, et on peut dire que c'est parmi les fruits de Nostra Aetate, ces rencontres à haute teneur symbolique entre les représentants de l'Église catholique et puis un certain nombre d'acteurs musulmans dans le monde. Alors, on ne peut pas dire le représentant de l'islam dans le monde, vous le savez aussi bien que moi, qu'il n'y en a pas un. Il y a une forme de... Et il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas chercher uniquement à avoir un représentant et puis transformer les autres en Église catholique en face. La rencontre à Casablanca me paraît vraiment très intéressante parce que c'est la première fois où un pape s'adresse de cette manière à la jeunesse musulmane. Et regardez ce qu'il a dit en s'adressant à elle, à quel point il a insisté, il a prolongé ce qu'on a vu avec Nostra Aetate, et le fait que Dieu est un, nous le croyons, vous le croyez, mais quelque part... Cette foi en un Dieu un ne doit pas nous empêcher de se rencontrer. Au contraire, elle va nous inciter à regarder autrement, y compris notre avenir. Alors, ça n'empêche pas de dire que pour les chrétiens, il va parler du Christ après, hein, au paragraphe numéro 10, donc un peu plus loin dans le texte. Il ne s'agit pas de l'occulter. Et ça a permis de prendre conscience petit à petit, je dirais, un geste symbolique. Jean-Paul II, c'est le geste symbolique, si je puis dire, symbolique, prophétique. Même en 86, quand il appelle à la rencontre à Assise, on est toujours dans ces gestes prophétiques. C'est important pour un monde qui change que des chrétiens et des musulmans, ou encore que des hommes et des femmes de toutes religions puissent se retrouver pour prier en vue de la paix. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué encore ensemble, l'importance de la rencontre pour asseoir la paix dans le monde. Et avant de parler des deux autres papes que vous avez évoqués, le pape François et plus récemment le pape Léon, je voudrais pointer ce fameux discours de Ratisbonne le 12 septembre 2006, qui, on peut revenir sur les faits.
Alors, mais pardonnez-moi, mon cher Michel Younes, c'est que nous pourrions lui consacrer une émission ad hoc, puisque nous arrivons au terme de celle-ci.
Et d'accord.
Et j'ai horreur de frustrer les intervenants, surtout lorsqu'ils ont à la fois votre compétence et votre connaissance. Donc, nous pourrions faire ainsi, et je suis navré aussi auprès des auditeurs, et là, nous sommes tenus par le temps, et donc nous trouverons bien une date, et nous reparlerons de cela. J'ai même eu une idée comme ce 2006-2026, on va dire 20 ans plus tard.
Ah, c'est une excellente idée.
Voilà une excellente idée. Je vous remercie infiniment, tout en implorant votre indulgence de vous avoir un peu freiné dans votre élan. Et c'est nous qui sommes perdants dans cette affaire, mais c'est momentané. Je vous remercie beaucoup, Michel Younes. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam et vous la retrouverez, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son était assurée aujourd'hui par Tahar Bourkhalifa et la réalisation est assumée par Daphné Leblond.
سمرا يا حورية ود الهوى عندنا بموجع المايا
يا مايلة الغصن عيني سمرا يا حورية نسم علينا الهنا فالحان سحرية نحن دعا الهوى تنلتقي بعيد رحنا بليلة غوى نقطف على ايده وبعده الحلو ما ارتوى وطابت مواعيده وتهنا نغني سوا بليلات امري Yeah. ورد الهوى عندنا